Bienvenue dans votre émission Histoire et Mémoire sur Radio Grand Ciel. Chaque mois, l'émission donc est animée par la direction de l'archéologie de la ville de Chartres. Lors de la dernière émission, j'avais le plaisir de recevoir Laurent Coulon, le directeur de l'archéologie à Chartres, et nous avions parcouru le cloître canonial tout autour de la cathédrale. Nous allons donc poursuivre aujourd'hui notre visite. Bonjour Laurent.
Bonjour.
Donc nous avions arrêté rue aux Herbes, où nous avions vu une maison particulière avec une petite chemise qui marquait la limite entre le cloître, le quartier on va dire réservé aux chanoines, et la partie plus commerçante et active de la ville. D'ailleurs Laurent, pourquoi ces noms de rue, rue aux Herbes, rue Olin?
Effectivement, les noms des rues se rapportent à des métiers ou des marchandises. Donc là, on est dans le secteur marchand de la ville. Et ces marchands ravitaillaient finalement à la fois le clergé du cloître canonial, mais également les occupants du château que nous allons voir par la suite.
Oui, effectivement, on va poursuivre notre balade donc à l'époque médiévale. On va se diriger vers la place de la Poissonnerie. Alors, Laurent, qu'est-ce que la place de la Poissonnerie qui avait-il ici?
Comme son nom l'indique, s'y tenait le marché aux poissons. Il y avait deux marchés aux poissons qui étaient jointifs. Place de la Poissonnerie, on y vendait le poisson de mer. Et il y a une petite rue, une petite ruelle, qui porte le nom de la rue du Poisson Doux. Et à proximité, on y vendait le poisson d'eau douce.
Donc deux lieux, deux sites, deux marchés différents avec cette maison dite Maison du Saumon maintenant hein, qui accueille l'office de tourisme et qui est une maison d'époque du coup.
Oui, on est fin 15e, début 16e siècle.
Et justement, quand on passe cette rue du Poisson Doux, il y a un autre édifice qui a attiré votre attention lors de cette redécouverte du patrimoine, on va dire, disparu.
À proximité se trouvait la halle aux pins. Et au premier étage de cette halle se trouvait le premier local municipal, donc la première, entre guillemets, mairie, la première maison commune, et où on y stockait le sel, le nécessaire pour la lutte contre les incendies, par exemple.
C'est-à-dire ?
Par exemple, on avait des grands crochets, qui servait à abattre les maisons en cas d'incendie pour créer des coupe-feu.
D'accord, pas de service d'incendie à eau comme maintenant, mais du coup, ce système de coupe-feu. Et quand on continue un petit peu notre chemin, on va arriver là, au pied de ce que l'on voit aujourd'hui, qui est la halle Billard. Mais bien avant ça, il y avait autre chose ici, Laurent.
Oui, la halle a été construite au XIXe siècle, mais à cet emplacement se trouvait le château comtal. On a deux châteaux qui se succèdent. Un premier château qui est construit par le premier comte de Chartres, Thibault le Tricheur, au milieu du Xe siècle.
D'accord.
Donc on a probablement à cette époque une construction en bois avec des levées de terre. Puis, dans la première moitié du XIe siècle, la construction d'un grand donjon rectangulaire en pierre, qui est de la même famille que celui, par exemple, de Nogent-le-Rotrou.
D'accord.
Voilà. Et ce château va perdurer, ce donjon va perdurer jusqu'à la Révolution. Mais progressivement, il va être démonté. Il va être raccourci en hauteur parce que il est difficile à entretenir, les pierres tombent, les comtes cessent d'y résider à partir de la fin du XIIIe siècle.
D'accord.
N'y reste que l'administration comtale et l'administration royale par la suite.
Et est-il vrai que dans ce lieu a servi de prison à un moment donné, ou c'est une légende ?
Il y avait évidemment des possibilités d'y garder des prisonniers. Mais il ne faut pas oublier qu'au Moyen-Âge, il n'y a pas de peine de prison.
Très
la prison ne sert qu'à qu'en attente du jugement.
Merci pour cette précision, Laurent. Et du coup, là, nous avons donc cet édifice qui a totalement disparu, mais la halle, quand même, en suggère un petit peu les contours, la forme de la place reprend un petit peu le pourtour du château.
Effectivement, la forme de la place reprend la forme de la chemise du château. Et dans certains jardins, dans des sous-sols d'immeubles, des bâtiments avoisinant la place, des murs du château sont encore visibles.
Walk by my shoes, and before you.
Alors on va sortir entre guillemets de l'enceinte du château et on se dirige vers la rue d'échange. Alors qu'est-ce que la rue d'échange? Pourquoi ce nom?
Parce qu'elle abritait l'échangeur, hein, les tables de change, puisque la valeur de la monnaie était dictée par finalement le poids de matière, de métal précieux qu'elle pouvait contenir, argent, or. Et donc l'échangeur estimait la quantité de métal précieux, la valeur de la monnaie, pour convertir cette monnaie en un autre type de monnaie. Quasiment chaque territoire frappait sa propre monnaie.
Est-ce que nous, on a retrouvé quelques monnaies chartraines lors de fouilles qui dateraient de cette époque?
On les retrouve très fréquemment sur les chantiers de fouilles. Elles sont caractéristiques, puisque c'est une monnaie, un modèle de monnaie qui vient des pays de la Loire, avec notamment la dynastie de Thibault le Tricheur, figurer un visage qui, au fil du temps, s'est stylisé et perdure encore actuellement, puisque ça figure dans les armoiries de la ville de Chartres.
Génial, cette histoire que je ne connaissais pas et que je pense que d'autres éditeurs découvrent aujourd'hui. Alors, on va poursuivre notre chemin et on va se diriger vers un autre édifice ou un autre lieu important de la ville de Chartres, c'est le parloir aux bourgeois. Alors, le parloir aux bourgeois, juste pour le situer pour les auditeurs, il y a maintenant un caviste au rez-de-chaussée. C'est un édifice dont on voit bien la façade que Laurent va nous décrire maintenant.
La façade qui donne sur la rue d'Échange est une façade qui a été refaite, il me semble, assez tardivement, probablement au XIXe siècle. Mais l'intérieur du bâtiment a gardé tout son caractère médiéval. Donc c'est une construction de la seconde moitié du XIIIe siècle. On est probablement autour des années 1270. Cet édifice est probablement au départ une aula, c'est-à-dire une salle seigneuriale où le seigneur, probablement en l'occurrence les comtes, rassembler ses fidèles et éventuellement y rendre justice. C'est une maison dans son état médiéval qui était sur deux niveaux, un rez-de-chaussée où on avait probablement des activités économiques, marchandes, d'autant plus qu'il y a des caves assez importantes en dessous, et à l'étage, une grande salle sous une superbe charpente qui est toujours en place. Avec des peintures murales qui ornaient les pignons à l'intérieur de la salle. Hein, ces peintures figurent d'un côté rue d'Échange, deux chevaliers opposés chargeant à cheval. Et sur le pignon à l'arrière, on a un chevalier et un arbre héraldique.
Donc on a cette superbe salle donc où le seigneur pouvait donc tenir séance. Et je crois qu'il y a d'autres petits bâtiments qu'on ne voit plus ou qui ont disparu aujourd'hui. Et donc c'est là aussi où il recevait, il y avait une hôtellerie, c'est ça? Il recevait ses hôtes aussi.
C'est devenu par la suite une hôtellerie. C'était l'hôtel des rois, probablement les rois mages, l'enseigne. Et cet ensemble de bâtiments, le parloir bourgeois et les bâtiments qui sont autour de la petite cour et même à l'arrière, ont été rachetés par la ville, il me semble, au XVIe siècle. Et ça deviendra la troisième maison commune de la municipalité ancienne de la ville de Chartres.
Aujourd'hui, donc, on ne peut pas visiter ce parloir aux bourgeois. On peut juste pénétrer dans la cour intérieure et voir quelques détails encore architecturaux à l'extérieur. Néanmoins, je crois qu'une étude va peut-être permettre d'en savoir un petit peu plus sur l'édifice, c'est ça?
Effectivement, nous avons été amenés à travailler sur cet édifice et nous sommes en train de préparer un dossier pour procéder à une étude documentaire de cet édifice.
Merci Laurent pour ce début de visite que nous allons poursuivre juste après la pause musicale. Donc je vous invite à nous retrouver après ces quelques instants.
Pubescent beasts roam through the streets and coffee shops. Their prey gathering herds for stiff knee-length skirts and white ankle socks. But while they search for a mate, my type hibernate in bedrooms above, composing their songs of love. Young uniform minds in uniform lines and uniform ties run around with trousers on fire and signs of desire they cannot disguise. While I try to find words as light as the birds in that circle above, to put in my song, my songs of love. Fate doesn't hang on a wrong or right choice. Fortune depends on the tone of your voice. So sing while you have time, let the sun shine down from above and fill you with songs of love. Take me.
Dans votre émission Histoire et Mémoire, nous parlons aujourd'hui avec Laurent Coulon, directeur de la direction de l'archéologie de la ville de Chartres, d'un petit voyage au cœur de l'époque médiévale en cœur de ville. Nous avons donc retraversé les rues commerçantes et visité virtuellement le parloir aux bourgeois. Nous allons maintenant nous diriger vers la porte cendreuse. Laurent, pourquoi des portes? Et pourquoi ces noms-là? Je crois qu'il y en a plusieurs comme ça tout autour du quartier cathédral.
Là, on est en dehors du quartier cathédral. Ce sont les portes de l'enceinte dite du Haut Moyen-Âge. L'enceinte du Haut Moyen-Âge enserre la partie haute de la ville. Dans ce quartier, elle relie en gros, l'église Saint-Aignan au prieuré Saint-Vincent, qui est en haut de la rue Saint-Père. Et donc, en haut de la rue Saint-Père, se trouvait une porte qui était appelée la porte des cendres, enfin la porte cendreuse, puisque au mercredi des cendres, c'est l'endroit où on distribuait les cendres. D'accord. Et un peu plus loin, au pied du tertre de la place de la poissonnerie, se trouvait une autre porte qui était appelée la porte évière. Donc c'était la porte par où passaient les éviers, c'est-à-dire ceux qui étaient chargés du ravitaillement en eau de la ville haute. Ils allaient puiser l'eau aux fontaines, et en particulier à la fontaine Saint-Nicolas à côté de la collégiale Saint-André, et livraient l'eau dans la partie haute de la ville. C'était essentiellement des femmes et des enfants.
D'accord, des porteurs d'eau. On poursuit notre visite, donc on va remonter direction de la place Marceau et de la place Estiendorf. Il y a là, je crois, des églises que l'on ne voit plus. Est-ce que vous pouvez nous les décrire, nous les citer, au moins les nommer ?
Alors, il y avait dans ce quartier deux églises qui ont disparu. La première se situait place d'Essiendorf. Il s'agissait de l'église paroissiale de Saint-Martin-le-Viandier, avec son petit cimetière. Et actuellement, sur la place, il reste un des contreforts de la façade de l'église qui est encore visible. Et sur cette même place, on peut remarquer également une magnifique arcade médiévale qui était l'entrée de la seconde maison commune de la ville. On a eu d'abord un local au-dessus de la Halle aux Pins, ensuite cette maison place des Essiendorf pour la période médiévale, pour les 14e, 15e siècles, et ensuite le parloir aux bourgeois, et pour finir à la Révolution, l'hôtel Montesco. qui devient la mairie.
Donc on aura, avec la nouvelle mairie en construction, 6 hôtels de ville, on peut dire, entre guillemets, à Chartres, connus et reconnus. L'autre, est-ce qu'il y a d'autres indices de cette église Saint-Martin-le-Viandier ?
Il existe encore une petite crypte où, si ma mémoire est bonne, il y a quelques fresques encore visibles.
Et l'autre église donc, qu'on ne voit plus et qui se situerait donc place Marceau ?
Elle est, oui, effectivement, place Marceau. Donc là, c'est une église qui va être construite, qui initialement n'était pas dans la ville. Elle se trouvait extramuros, à l'extérieur des murs, au niveau de la jonction entre la place des Éparts et le boulevard Châle.
Ah, donc elle était vraiment excentrée, on va dire.
Elle était à l'extérieur de l'enceinte. Mais avec les débuts de la guerre de 100 ans, elle est considérée comme étant trop proche des murs et peut représenter une menace pour la défense de la ville.
D'accord.
Donc elle va être démolie et on va la reconstruire au 14e siècle, au milieu du 14e siècle, à l'intérieur de la ville, à l'emplacement de la place Marceau.
Marceau qu'on voit maintenant. Avant, il y avait des symboles au sol pour figurer l'emplacement de cette église. Ils ont maintenant été remplacés. Néanmoins, si on continue notre chemin, Laurent, si on va vers la place du Cygne, on est toujours dans l'enceinte de la ville médiévale ou on en est déjà sorti ? Qu'est-ce qui se trouvait là ?
On est quasiment au niveau, place du Cygne, au niveau du passage de l'enceinte du haut Moyen-Âge, qui va longer la rue Sainte-Mème. La place du Cygne, dans les périodes anciennes, avait un aspect totalement différent, parce que ce n'était pas une place. Il faut imaginer au milieu de la place actuelle tout un îlot d'habitations qui était tout en longueur et qui était large d'une maison.
On continue donc, Laurent, notre chemin. On va se diriger vers la rue du Soleil d'Or. On passe par la place Casanis. Et là, on va traverser d'autres portes.
Eh bien, entre la place du Cygne et la place Casalis se trouvait la porte, dans l'enceinte du Haut Moyen-Âge, la porte Percheronne. Comme son nom l'indique, c'était le débouché pour aller vers le Perche. Et à proximité, à l'extérieur de l'enceinte du Haut Moyen-Âge, on avait là aussi, comme pour la porte neuve évoquée lors de l'émission précédente, une boucherie.
On rappelle, donc les activités de sang, entre guillemets, étaient interdites
à l'intérieur de l'enceinte. Ces périodes-là. Ensuite, les bouchers seront progressivement intégrés dans la nouvelle enceinte. Il faut imaginer que au Xe, XIe siècle, tout l'espace vers la place des Halles, vers... par exemple, la rue de la Tonnellerie, tous ces endroits étaient à l'extérieur de la ville et n'étaient pas bâtis. Ils étaient essentiellement plantés en vigne. Et qu'à partir de la fin du XIe siècle et surtout au XIIe siècle, on va avoir une expansion de la ville. Tout, tout ce secteur va être progressivement loti, et à la fin du XIIe siècle, on va avoir la construction de l'enceinte, cette fois-ci définitive, qui reprend le tracé des grands boulevards qui entourent la ville, hein, boulevard Maurice Violette, boulevard Châle, boulevard de la Courtille, boulevard Clémenceau,
etc. Et d'ailleurs, on retrouve, je crois, dans le parking actuel Place des Éparts, un éperon, c'est ça, qui serait une partie de cette enceinte.
La pointe d'un éperon qui est construit après le siège de 1568.
Donc on a quelques traces encore de cette ancienne enceinte, on va dire, le long des boulevards.
Et puis il en reste des vestiges un peu partout.
Merci Laurent, en tout cas, pour cette découverte du patrimoine disparu. Hein, je rappelle, en deux émissions, la première plutôt consacrée au cloître Notre-Dame, avec cette visite immersive, la découverte de différents bâtiments. Et aujourd'hui, donc autour de la place Billard jusqu'à la place du Cygne, en passant par la place des Seine-d'Orve. Je vous invite à réécouter ces émissions, ou du moins lire le hors-série de Science et Avenir, qui du coup est consacré à l'époque médiévale et la redécouverte des villes à cette époque, et vous avez un très bel article justement sur l'évolution de Chartres. Nous nous retrouvons donc le mois prochain avec Stéphane Herouin, qui est anthropologue au sein de la direction de l'archéologie, pour nous expliquer au fil des siècles les différentes pratiques funéraires qu'il a pu observer lors des fouilles à Chartres. Je vous remercie de votre attention et je vous dis au mois prochain. À bientôt.
Still meet me on the sunny road. It's time.